France Inter, le 6-9 du week-end.
Il nous raconte la vie des plantes, des fleurs, des arbres, mais aussi souvent, parfois, des animaux, des oiseaux.
Et
Alain Baraton.
Et il voulait complimenter Patricia Martin sur cette chronique, effectivement. Les chasseurs ont bien entendu le droit de s'approprier une partie de la nature, mais je crois qu'il serait bon que les chasseurs fassent le tri.
Ces chasseurs-là, en tout cas.
Oui, qu'ils fassent le tri parmi leurs troupes. Il y a le chasseur en communion avec l'environnement. Il y a ce qu'on appelle également le viandard. Il y a aussi le barbare. Il est grand temps aujourd'hui que vraiment on remette de l'ordre dans ces pratiques.
Alain, vous nous présentez aujourd'hui la spirée du Japon. La spirée du Japon appartient à la même famille que le rosier.
Et vous savez, Pierre, que les plantes sont divisées par famille. Et les deux plantes, comment dire, la spirée du Japon et le rosier, appartiennent à celle des rosacées. Une famille gigantesque qui réunit à elle seule 3370 espèces végétales comme le pommier, l'abricotier, le cotonnet, aster, le pyracanthe, le néflier, le cognassier ou encore le framboisier. La spirée du Japon, Pierre, est un bel arbuste à feuilles caduques, donc qui perd ses feuilles à l'automne, qui peut atteindre adulte les 2 mètres de hauteur et qui produit des fleurs roses ou blancs.
Alain, en quelle année est-il introduit dans nos jardins ?
Alors le Japon est déjà un pays qui fut interdit aux étrangers jusqu'au XVIIIe siècle et la Chine, quant à elle, n'autorisait la venue sur son territoire qu'aux religieux car ils se déplaçaient sans armes. Il faut donc attendre, patienter devrais-je même dire, jusque dans les années 1850, pour en voir fleurir d'abord en Angleterre, puis chez nous en France.
Et vous m'avez expliqué, Alain, que la spirée du Japon est un arbuste apprécié aussi outre-Atlantique.
Oui, c'est logique. Quand les Anglais émigrent en nombre aux États-Unis, ils emmènent avec eux la spirée et en plantent dans les parcs et jardins. Elle s'y plaît tant qu'elle se naturalise et colonise assez vite de nouveaux territoires. Alors au début, elle se contente de remplacer la spirée de Douglas, une cousine, qui est un arbuste né sur ce territoire américain. Et très vite, elle prend la place d'autres plantes, ce qui explique pourquoi aujourd'hui encore aux États-Unis, elle est sur la liste des espèces envahissantes.
Mais comment cette plante fait-elle pour être si prolifique ?
Son secret est dans les graines. Chaque année, elle produit des fleurs puis des graines qui, à maturité, tombent sur le sol. Le vent, la pluie, les animaux et les hommes, de par les déplacements, finissent par les recouvrir d'une fine pellicule de terre. L'année suivante, quelques graines germent et donnent naissance à de nouveaux arbustes. Immédiatement, l'homme désherbe chimiquement ou mécaniquement. Mais l'année suivante, des graines qui dormaient encore lèvent à leur tour et ainsi de suite sur plusieurs années. L'aspirée est ainsi capable de produire des semences qui mettent 5, 10, 15, 20 ans avant de germer, ce qui permet donc à la plante d'attendre le passage des êtres humains pour produire à nouveau de nouveaux plants. Alors pour ce qui est des spirées, je tiens également à préciser que là je parle de la spirée du Japon, il en existe beaucoup d'autres, il en existe en effet une petite centaine de variétés.
Une centaine ?
Oui, mais c'est un très bel arbuste effectivement que l'on rencontre souvent. Vous, Pierre, qui êtes un habitué, je crois, du jardin du Luxembourg, oui. Il y a Kant, et bien oui, on le sait, un banc d'ailleurs vous a même été réservé. Et
bien, si vous le voyez cet après-midi, il a une chemise noire avec des fleurs rouges dessus.
Oui. Donc il y a beaucoup de spirées dans le jardin du Luxembourg, par exemple.
Et aussi des merles, et il faut les protéger. Ils sont merveilleux. Les questions pour Alain Baraton, elles sont nombreuses. Sylvie, est-il déjà possible de planter des arbres? C'est bizarre comme question.
Ah bah oui, parce que nous arrivons à l'automne et on nous dit souvent on peut planter les arbres à l'automne. Oui. Alors est-ce qu'on peut maintenant, nous sommes en automne, planter des arbres? Eh bien je vais répondre non, parce qu'il y a deux automnes. Celui qui est sur le calendrier que vous connaissez, c'était dimanche dernier à 1h54 du matin pour être précis. Et puis il y a l'automne végétal. Alors qu'appelle-t-on automne dans le domaine du jardinage? C'est la saison à laquelle les arbres ont tous perdu leurs feuilles. C'est la période de dormance. Entre le moment où les arbres ont perdu leur feuillage et le moment où ils en reproduisent, c'est le moment où l'on peut parler de repos végétatif, donc de planter. Alors là, il est temps maintenant de faire les trous de plantation. Attention, on ne fait pas des trous et les laisser comme ça, sans protection, surtout si on a des enfants. Mais l'idéal est de faire les trous maintenant. On va dans les pépinières. J'aime bien l'idée du pépiniériste. On parle souvent des grands magasins. Le pépiniériste, c'est un homme de terrain. Il y a des lieux merveilleux, on découvre des plantes incroyables. Ce sont des gens de bons conseils, bien souvent, qui vous parleront de plantes, mais également des petits oiseaux qui viennent dans le jardin. Car je rappelle que le jardinier est aussi une sentinelle de l'environnement. On parlait à l'instant des oiseaux avec Patricia Martin. Regardez dans les parcs et jardins parisiens, il n'y a plus tous ces moineaux qu'on connaissait auparavant. On voit de gros oiseaux maintenant, on voit des pigeons, on voit des corneilles, on voit des geais, on voit des perruches. Les petits oiseaux tendent commencer à disparaître, donc il faut planter pour attirer à nouveau les oiseaux, et j'allais dire, donc on attend pour planter encore aller 15 jours, 3 semaines pour planter les arbres.
Jean-Paul, est-il possible de planter dans un massif de terre de bruyère des rosiers ?
Oui, mais alors attention, quand je dis oui, là, il y en a qui disent de Baraton est devenu fou. Pas du tout, j'explique. La terre de bruyère ne convient qu'à certaines plantes. Exemple, les magnolias, la bruyère, bien sûr, l'azalée, le rhododendron, etc. Alors, comment faire pour mettre des rosiers dans une terre de bruyère ? Bon, on n'y pense pas. Prenez tout simplement un grand pot, vous plantez votre rosier dans le pot et vous enterrez le rosier et le pot dans le massif de terre de bruyère. Il pousse dans un massif de terre de bruyère, mais dans une terre qui lui convient. Alors, ça ne pourra pas durer éternellement, la plante aura besoin davantage de racines, mais au moins pendant les 2 ou 3 saisons, vous aurez donné l'illusion que chez vous, les rosiers poussent là où vous l'avez souhaité.
Et l'on reparle d'espirée. Louis, faut-il tailler l'espirée ?
Alors, moi je pense que l'espirée ne se taille principalement que pour leur redonner une belle forme. On va réduire des 2/3 les branches principales. En fait, on va, après la floraison, donc à l'automne, supprimer toutes les branches mortes. On va également réduire d'1/3 les tiges principales et des 2/3, pardonnez-moi, les tiges secondaires. Donc oui, on va rabattre légèrement pour donner davantage de dynamisme à la plante l'année suivante.
Question de Mickey. Les feuilles de mes marronniers sont devenues très moches et depuis l'été, que faire ?
Guignardia aesculi, c'est un nom savant qui désigne la maladie des taches rouges. C'est une maladie dite cryptogamique. Chaque fois qu'il y a un printemps ou un été chaud et humide, la maladie arrive. Elle est préjudiciable à l'esthétique du végétal. Elle épuise un petit peu la plante, mais elle n'est pas dramatique. On ne peut rien faire. Comment voulez-vous, Pierre, traiter un arbre quand il fait 30-40 mètres de hauteur ? Ouais. Ce n'est pas possible.
En quelques secondes, une balade, Alain Baraton ?
Ah oui. Deux promenades en 2 secondes. C'est la fête d'automne au château de Jossigny, c'est dans l'Essonne. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est encore la 2e édition Région Jardin Ouvert. Plein de jardins en région parisienne sont ouverts. Allez sur les sites internet Région Jardin Ouvert.
Alain Baraton, merci beaucoup. À la semaine prochaine, samedi et dimanche, avec Éric Delvaux.